Podcast numéro 75 consacré au nerf de la guerre, c'est-à-dire à la clientèle, à votre patientèle. Donc l'aspect commercial et la prospection et se faire connaître tout simplement pour pouvoir remplir son carnet de rendez-vous et pouvoir vivre de son activité. Alors là, nous avons deux cas de figure. Le premier cas de figure, vous êtes déjà médecin ou psychothérapeute ou une activité connexe, hein, comme sophrologue par exemple ou kinésithérapeute. Bref, vous avez déjà une activité, vous rajoutez cette activité d'hypnothérapeute et là, effectivement, écoutez, vous avez déjà fait la démarche de vous installer, fait la démarche de vous faire connaître. Il n'y a plus qu'à mettre en avant votre nouvelle activité, votre nouvelle offre, donc l'hypnose. Vous pouvez bien évidemment préciser quels sont les champs d'application de l'hypnose. Bref, vous connaissez déjà les us et coutumes pour se mettre en avant et pour, encore une fois, remplir son carnet de rendez-vous. Autre possibilité, vous vous installez comme hypnothérapeute. Vous n'êtes ni médecin, ni psychothérapeute, ni activité connexe et à laquelle vous rajoutez cette activité d'hypnothérapeute. Et là, vous n'avez jamais pratiqué, vous n'avez aucun client et maintenant, il est temps de faire venir des clients et remplir son carnet de rendez-vous. Alors, comment faire? Comment faire? C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens commercial aussi. Comment se mettre en avant, comment se faire connaître avec tous les atouts et tous les outils dont nous disposons et ceux que nous avons dans la cité, dans la société, pour pouvoir faire avancer son cabinet. Donc nous allons développer plusieurs points. Nous partons encore une fois du principe que vous n'avez jamais travaillé dans ce type d'activité, que tout est à construire depuis l'origine. Alors la première des choses à faire, ça sera de créer un site internet. Parce qu'aujourd'hui, même parmi les personnes âgées, beaucoup cherchent sur internet des informations. Vers qui se tourner lorsqu'ils ont décidé de faire appel à un hypnothérapeute, et de plus en plus abandonner l'usage des pages jaunes sous forme papier, sauf chez quelques personnes âgées, effectivement, et en la matière, ces gens-là ne viendraient jamais chez vous, de toute façon, hein, ceux qui utilisent les pages jaunes sous forme papier. Donc, oubliez tout de suite l'idée. Pour rester sur les pages jaunes, de faire de la promotion dans les pages jaunes papier. Si vous avez un commercial à un moment donné ou si vous-même avez l'idée de les contacter et qu'on vous propose les pages jaunes papier, laissez tomber tout de suite, vous allez payer très cher et ça vous rapportera, dans le meilleur des cas, un client par an. Ou deux. Enfin bref, c'est plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les pages jaunes aujourd'hui proposent. Un autre outil, mais on va y revenir dans quelques instants. Je vais finir lorsqu'on va parler de la publicité, comme sur Google, Bing, Yahoo, etc., etc. Je vais finir l'approche sur le site internet et on va revenir sur la publicité juste après. Excusez-moi, j'ai pris une petite seconde pour écrire quelque chose, pour prendre des notes. Alors un site internet, plusieurs possibilités. Alors pourquoi un site internet? Bien évidemment pour vous faire connaître. Quelle est votre démarche, qui vous êtes. Moi dans l'idéal, je vous conseille de mettre une photo. Cela rassure, peu importe votre tête. Hein, bon, dans l'idéal, mettez aussi une photo de pas terrible, enfin je veux dire, qui ne fera pas peur, qui n'aura pas un aspect terrible, bien évidemment. Ça, encore une fois, c'est une question de bon sens. Éviter le cadre familial aussi. C'est pas la peine de mettre la photo avec l'anniversaire de vos amis où vous êtes éméché ou l'anniversaire du petit dernier qui vous fait les oreilles de lapin derrière. Voilà, encore une fois, une affaire de bon sens, une photo de vous, neutre, pour que les clients puissent appréhender qui vous êtes, en même temps que le petit résumé que vous ferez sur votre personnalité et sur votre cursus, peut-être, pour rassurer. Donc moi, je conseille toujours une photo parce que souvent, depuis plus de 20 ans maintenant, on m'a dit, ça m'a rassuré que vous mettiez cette photo. Et je l'aurais compris de moi-même, bien évidemment, et c'est pour ça que je l'ai mis dès le début. Plutôt que de se retrouver face à une page vierge, on téléphone, on fait une démarche, on a une voix au téléphone, et beaucoup ont cette appréhension déjà de prendre le téléphone pour décrocher un rendez-vous, pour avoir un rendez-vous. Alors si en plus ils n'ont pas, ils ne conceptualisent pas l'image de la personne qu'il y a derrière, il y a un blocage supplémentaire, une résistance supplémentaire. Vous aurez tout à y gagner et ça ne vous coûte rien du tout de mettre votre photo. Plus, si vous le souhaitez, donc quelques lignes sur vous, d'où vous venez, ce que vous avez fait, quelle est votre carrière. Dans l'idéal, plutôt mettre votre cursus par rapport à l'hypnose ou les psychothérapies ou la médecine, ce genre de choses. Alors pour les médecins, il y a une ambiguïté parce que si je me souviens bien, les médecins ne sont pas censés devoir faire de la publicité. Et ça pourrait s'apparenter à de la publicité, un site internet. Et d'ailleurs, certains font de la publicité pour leur site internet avec des modules publicitaires sur AdWords, sur Google, Bing, Yahoo, etc. Ça, c'est extrêmement ambigu, extrêmement ambivalent. Bon, il se trouve que le conseiller de l'ordre, et ça, je m'adresse directement aux médecins, et vous le savez, le conseiller de l'ordre est plus que tolérant vis-à-vis de ces pratiques et vis-à-vis des médecins en général, donc de vous-même. Voilà, bon, je reviens et je m'adresse à l'ensemble des gens qui m'écoutent maintenant, des étudiants qui m'écoutent, et notamment de ceux qui n'ont pas d'activité qui est déjà connexe à ce que vous avez étudié et que vous allez mettre en œuvre, à savoir l'hypnothérapie. Donc on revient sur le site internet. Qu'est-ce qu'on va mettre sur ce site internet? Encore une fois, on l'a vu, mais ce n'est pas une obligation. Parler un peu de vous. Voilà, ça peut être rassurant de dire que, par exemple, vous êtes en famille, vous êtes marié, vous avez deux enfants, vous avez eu une activité X ou Y avant, vous êtes formé à telle ou telle technique. Vous pouvez faire différent, vous pouvez simplement dire, voilà, je suis monsieur ou madame un tel, diplômé ou certifié en hypnothérapie depuis telle ou telle année. Voilà, vous pouvez aussi broder, rien ne vous empêche de broder. C'est à vous de savoir. Ou d'appréhender ce que le client attend un peu. Je vous donne ces conseils, mais comme toujours, vous allez les affiner en fonction de votre propre démarche. Qu'est-ce qu'on met encore sur ce site internet? Bon, on va mettre, par souci de transparence, on va mettre ses tarifs. Voilà, je pratique tel ou tel tarif. Pour ma part, je ne fais pas de réduction étudiant ou chômeur. Vous, si vous en faites, vous l'indiquez également. Dans l'idéal, ne marchandez jamais vos tarifs. Voilà, vous avez des tarifs, ils sont affichés, quels qu'ils soient, ne les marchandez jamais. De toute façon, les gens qui vont vous téléphoner pour marchander vos tarifs, d'une part, il y a peu de chances qu'ils prennent rendez-vous in fine. D'autre part, vous allez peut-être les voir une fois. Pas plus. Ensuite, c'est pas une certitude ce que je vous dis, hein, mais c'est ce qui statistiquement arrive le plus fréquemment. J'étais donc sur le site internet. Voilà, ne marchandez jamais vos tarifs. Vous pouvez mettre vos horaires, bien évidemment, votre plan d'accès, et puis quand même le plus important, vous allez parler de l'hypnose. Vous allez mettre en avant les services que vous proposez, donc voilà ce que je fais avec ma technique, vous faire arrêter de fumer, initier un régime, modifier vos comportements alimentaires, phobies diverses et variées, etc., etc. Donc vous pouvez aller sur mon site hypnose.com, hein, qui est pas l'idéal peut-être, je sais pas. Après c'est très subjectif, hein, un site internet. Voilà, moi j'essaie de condenser, de faire le plus light possible. Au niveau du design, j'essaie de faire le J'ai eu plusieurs versions, hein, depuis plus de 20 ans, hein, maintenant. D'ailleurs, avant de s'appeler hypnose.com, il s'appelait, parce que j'avais un autre nom de domaine quand je faisais essentiellement la psychanalyse, c'était ben, justement psychanalyse.com que j'ai revendu ultérieurement. J'ai toujours essayé de faire ça, c'est-à-dire de faire assez neutre, de donner le plus d'informations de façon concise, de ne pas effrayer par des concepts fumeux, métaphysiques ou des liens divers et variés. D'ailleurs, oubliez tous les liens parce que si quelqu'un part de votre site, il ne reviendra pas sur votre site. Et souvent, on m'a dit, voilà, j'avais le choix entre X personnes que je ne connaissais pas sur Internet. Il fallait que je me décide. Et effectivement, c'est celui qui avait la meilleure tête, déjà, parce qu'il y avait ma tête. Pour d'autres, il n'y avait pas leur photo. Et c'est celui qui me paraissait le plus sérieux. Et ça, l'aspect sérieux, c'est très subjectif, mais ça va venir de la façon dont sera construit votre site. Donc vous allez proposer vos services, vous détaillez vos services, vous pouvez faire un petit laïus pour chaque technique, chaque service, hein, chaque problématique à régler, chaque pathologie ou chaque symptôme. Vous pouvez faire un petit laïus sur l'arrêt du tabac, expliquer pourquoi, comment, sans rentrer trop dans les détails, hein. Il faut quand même que vous gardiez un peu le mystère de ce qui va être mis en œuvre et de ce que vous allez parler pendant l'entretien. Vous pouvez faire une rubrique questions fréquentes, je vous renvoie à mon site internet. Alors, soyez gentils, ne copiez pas mon site internet, les textes, je veux dire, retravaillez-les, je vous prie. Ou alors vous me citez, mais retravaillez-les dans l'idéal, réécrivez-les. Dans ma rubrique questions fréquentes, j'ai essayé de faire quelque chose qui, à mon sens, était très important, c'était de démystifier l'hypnose. C'est-à-dire que la plupart des gens qui viendront vous voir, bien évidemment, auront déjà franchi le cap mental, ils auront une certaine confiance en vous, bien avant de vous rencontrer, et ça passe par tout ce que je vous ai expliqué, par l'aspect neutre, honnête aussi, de ce qui va dégager de votre site internet. Qu'est-ce que je disais là? Donc les gens qui vont venir vous voir. Bon, ben ça arrive, parfois on s'opère, ça me reviendra, je le développerai ultérieurement, on va embrayer sur autre chose. Voilà, donc parfois, surtout si un jour vous faites des formations, ne faites pas comme moi, bon, je ne lis pas mon manuel, je note parfois des choses, mais en fait, je ne prépare pas, je ne note pas tout ce que je devrais. Tout ce que je devrais approfondir, enfin développer lorsque je fais les cours. Ah oui, ça y est, ça me revient finalement. Je parlais de démystifier, voilà, dans la rubrique questions fréquentes. J'ai souhaité dès le début, idem à l'époque de la psychanalyse, où je faisais beaucoup de psychanalyse. Il faut savoir que maintenant on fait quand même beaucoup moins de psychanalyse et les gens se tournent vers des techniques plus rapides, plus efficaces aussi d'ailleurs. Psychothérapie diverses et variées, TCC et surtout l'hypnothérapie. Donc disais-je encore une fois avant de me perdre, une nouvelle fois. Vous n'êtes pas là, on n'est pas en face, donc vous ne pouvez pas me rappeler à l'ordre en me disant, attention, vous êtes encore en train de faire une digression, revenez à l'essentiel. Dans cette rubrique questions fréquentes, j'ai essayé de démystifier l'hypnose. Il y a encore une fois, c'est ce que je disais, des gens qui vont vous faire confiance, a priori, hein, ils vont faire confiance. Ils passent le cap de vous téléphoner, de venir au rendez-vous. Et ça passe aussi, lorsqu'on ne vous connaît pas, lorsque ce n'est pas du bouche à oreille qui vous renvoie cette personne, par cette rubrique questions fréquentes, où j'explique, et vous lirez les textes, j'essaie d'expliquer que l'hypnose, ça n'a rien de métaphysique, que ce n'est pas non plus ce qu'on peut voir dans le spectacle, ça j'en parle pas, mais ça c'est induit en fait. Les gens, la plupart des gens le comprennent, que c'est une technique naturelle, etc. C'est très important de démystifier l'hypnose, comme en général de démystifier toutes les psychothérapies. Je sais pour consulter beaucoup de sites internet que la plupart des intervenants, des professionnels ne le font pas. Voilà, le concept, l'idée, c'est de. J'ai un site internet, j'explique qui je suis, je mets mes tarifs, et vous êtes censé savoir ce qu'est ma psychothérapie ou ma technique de travail sur vous-même. Je trouve ça. chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je pense que c'est laisser un peu le client dans la nature, parce qu'après, il doit aller chercher à droite à gauche quelles sont les informations sur Wikipédia, sur d'autres sites, quelle est cette technique, comment elle se met en œuvre, et il se perd, et il revient pas chez vous, encore une fois. Alors que, en l'occurrence, le but du jeu, c'est de, une fois qu'il est sur votre site, qu'il comprenne tout ce qu'il a à comprendre, qu'il voit votre tête, qu'il voit qui vous êtes, quelle est votre démarche, quels sont vos services, et qu'il décroche son téléphone et vous prenne rendez-vous. Là, on est quand même dans une rubrique sur l'aspect commercial de la chose. Donc, il faut être efficace, concret et efficace. Voilà, donc consultez mon site, consultez-en d'autres, voyez les différences. Une fois que vous allez partir sur la réalisation de votre site internet, ça sera vital. Déjà, vous préparez le contenu, vous y mettez ce que vous voulez y mettre, et bien évidemment, au fil du temps, votre site internet évoluera. Et puis un jour, vous serez fatigué du design, ou vous aurez envie de le restructurer de fond en comble, et vous le referez. Alors, je vais juste m'interrompre une seconde. Prendre un verre d'eau, j'ai la gorge un peu sèche, l'hiver est déjà en train d'arriver de faire ses premiers dégâts. On va reprendre tout de suite sur justement comment on fait un site internet. Alors là, je vous vois déjà avec des yeux gros comme des billes ou des boulards. Ne vous inquiétez pas, rien de bien dramatique. Il y a des milliards de sites internet sur l'internet. C'est bien la preuve que tout et n'importe qui, et tout le monde et n'importe qui, est capable soit de se payer un site internet. Dans l'idéal, moi, bien sûr, on peut le faire, ça peut ne pas coûter cher, mais on peut aussi se le faire soi-même et ça coûte encore moins cher. Et c'est un budget qu'on va consacrer, si on se le fait soi-même, à se promotionner pour faire justement rentrer nos premiers clients. Voilà, à tout de suite. Alors, comment crée-t-on un site internet? J'ai conscience que nous sommes encore loin. Une nouvelle fois, nous sommes loin de l'hypnose, mais encore une fois, c'est bien beau de posséder un bagage, une technique, si on n'est pas capable de se vendre, si on n'arrive pas à développer son cabinet pour en vivre, malheureusement cette technique va se limiter à certains proches et encore travailler, comme vous le savez, sur des proches, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc il faut, notamment pour ceux qui n'ont pas d'activité de médecine ou de psychothérapie, ou d'activité paramédicale, ou d'activité connexe, et qui ne veulent vivre que de cela, et encore une fois, je le répète, c'est plus que largement faisable, hein. Il y a des cabinets qui ne vivent que de l'hypnothérapie et qui en vivent très bien. Moi, j'ai toujours une petite clientèle, notamment des vieux analysants, et quelques-uns de temps en temps qui viennent par le bouche à oreille en psychanalyse, mais je fais bien 75% de mon chiffre d'affaires aujourd'hui avec l'hypnose. Et croyez-moi, ça remplit bien mon carnet de rendez-vous. Et ce n'est pas parce que je suis à Paris uniquement, je sais qu'il y a des hypnothérapeutes en province, dans des grandes villes ou des villes moyennes. Ou des petites villes, et il faut compter avec l'agglomération, qui en vivent relativement bien. Donc, il nous faut, pour remplir ce carnet de rendez-vous, encore une fois, communiquer et faire un effort sur l'aspect commercial de la chose. Alors, comment est-ce qu'on crée un site internet? Alors, il vous faut un nom de domaine. Bon, tout ça, vous allez le trouver sur Internet. Moi, je vais le faire très rapidement, mais vous prenez des notes, vous verrez, ça sera encore plus simple que de le chercher sur Internet, comment créer un site Internet. Mais c'est extrêmement simple. Soit vous allez choisir un prestataire, encore une fois, qui va vous prendre de l'argent, que vous n'investirez pas. Mais on reviendra sur le prestataire, hein. Je ne veux pas non plus vous en parler comme ça. On va quand même y revenir. Je vais vous donner deux optiques, deux approches possibles. Soit le faire vous-même, soit Vous verrez que c'est absolument réalisable, soit payer un prestataire. Donc, si vous le faites vous-même, il vous faut un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est par exemple hypnose.com. Ce nom de domaine, j'en suis propriétaire tant que je paie la redevance, auprès d'un organisme de nommage, ou en anglais un registrar. Registrar. Désolé pour mon accent. Hein. Je peux vous le faire en russe aussi, mais registrat. L'accent est meilleur en russe qu'en anglais. Ça, c'est un peu notre problème à nous, les Français. Bon, bref. Et qu'est-ce que vous faites avec ce nom de domaine? Vous en êtes donc propriétaire tant que vous payez la redevance. Et chose intéressante, vous pouvez quand même le revendre. Si vous êtes propriétaire parce que vous payez la redevance, vous pouvez le revendre. Donc quelque chose que vous payez par exemple 15 € par an, si à un moment donné votre cabinet marche bien et que vous voulez faire autre chose et que vous trouviez un client potentiel, vous allez pouvoir vendre le site si vous voulez, mais surtout le nom de domaine. Et là, ça peut atteindre des sommes assez intéressantes. Alors où est-ce qu'on trouve ces registrars? C'est nos organismes de nommage. En France, il y a par exemple un qui est extrêmement connu, qui s'appelle Gandhi, GANDI.net, si je me souviens bien, GANDI.net, sinon GANDI.fr, Gandhi.fr, je pense. Et sinon, il y a des organismes qui sont à la fois organismes de nommage et qui sont en même temps hébergeurs. Hébergeurs, des centres serveurs, en fait, sur lesquels vous allez louer un espace sur un ordinateur, que vous allez gérer à distance, bien évidemment, sur lesquels seront les pages de votre site Internet. Et quand votre client va se connecter sur Internet, il va se connecter sur votre site et il appellera, il consultera les pages qui sont sur le serveur et pas sur un ordinateur chez vous. Parce que ça voudrait dire que vous seriez vous-même sans serveur, ça veut dire avoir un ordinateur qui tourne en permanence chez vous dédié à cela, avec les systèmes de sécurité nécessaires et surtout une liaison spécialisée connectée à un nœud Internet. Et là, c'est une fortune. Voilà, c'est un autre métier. Bref, vous avez besoin d'un nom de domaine, vous avez besoin d'un centre serveur sur lequel vous allez mettre les pages de votre création de votre site Internet. Et il y a des organismes français ou internationaux qui sont à la fois organismes de nommage et centres serveurs. Et le plus connu en France et qui fonctionne assez bien, c'est OVH. OVH.com ou OVH comme OVV comme Vincent, Oscar Vincent H comme Hubert, .com ou .fr. Un nom de domaine, ça coûte, que ce soit un .com ou un .fr, ça coûte une quinzaine d'euros par an. L'hébergement d'un site internet, ça coûte pareil, une vingtaine, entre 20 et 40 euros par an. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez facile à mettre en œuvre. Il y a un autre centre serveur qui est en France, qui est très connu et qui héberge aussi des milliers des dizaines ou des centaines de milliers de site internet, c'est One and One. One, le chiffre, 1 and One. 1and1.com. Encore une fois, je vous ferai une liste, et vous verrez dans la rubrique téléchargement, je vous ferai une liste de toutes ces références. Alors, ce sont des interfaces, One and One and OVH. Ce sont des interfaces assez simples à gérer, même pour des néophytes. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pris, vous, la décision de créer votre site Internet, il n'y aura pas de grandes difficultés, même si vous allez peut-être vous faire aider à certaines étapes. Il n'y aura pas de grandes difficultés à payer vous-même le nom de domaine, à réserver votre espace d'hébergement, etc. Bien évidemment, vous n'allez pas vous contenter là de mon podcast sur comment se vendre et comment lancer son activité. Ça sera quelque chose qu'il faudra un peu travailler de votre côté. Mais le jeu en vaut la chandelle. Déjà parce que c'est intéressant, et puis d'un point de vue économique, encore une fois, parce que ça vous permettra d'investir un budget que vous ne mettrez pas à payer un prestataire dans de la promotion. Alors maintenant, comment on crée les pages? Deux possibilités. Alors soit du site internet, hein, comment on crée les pages du site internet, comment on crée un site internet. Soit on apprend à coder. Alors il y a certains d'entre vous qui seront peut-être déjà des codeurs. Hein, alors là, vous utilisez les langages que vous voulez, HTML ou autre. La plupart des gens, et moi le premier, je suis incapable de le faire. Donc j'utilise ce qu'on appelle un CMS. C'est un, si je me souviens bien, un Content Management System. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une boîte finalement, enfin une boîte, c'est un concept la boîte. Hein. C'est un outil, un logiciel où vous n'avez plus qu'à cliquer sur certaines icônes, sur certaines rubriques pour créer du design. Et à l'intérieur de ce design, vous allez assez facilement installer des textes, y mettre des photos, y mettre des supports. Voilà ce genre de choses. Donc un CMS est le plus connu des CMS aujourd'hui. Enfin, il y en a deux ou trois, mais le plus connu, c'est celui que moi j'utilise pour certains de mes sites, c'est WordPress. 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 Non seulement il est facile à utiliser, mais en plus il est gratuit. Voilà, on peut rajouter quelques extensions qui sont parfois payantes, mais il y a des dizaines de milliers d'extensions, c'est-à-dire des modules complémentaires pour faire des sondages, pour sécuriser le site, des designs nouveaux, et tout ça, c'est gratuit. Donc ça vous permet d'obtenir un site facile à mettre en œuvre, très pratique, facile à modifier, très joli. Même sans une grande expérience de l'internet et sans être un codeur ou un graphiste. Voilà, et c'est dans l'absolu, on peut faire un site, allez, en 2-3 heures, après avoir acquis une certaine expérience de WordPress. Et pour ce faire, moi je vous conseille une formation. Je vous la conseille parce que je l'ai fait moi-même. C'est une formation en ligne, hein. Je l'ai achetée entre 40 et 50 euros, je me souviens plus. C'est super bien fait. C'est un type qui s'appelle Olivier Gobet, Gobet. Et donc c'est WordPress 4 et c'est sur le site internet eleform.com ou eleform.fr. Elepho. Donc je vous dis ELE, attendez, je vais aller sur le site, ça sera plus simple. ELEPHORM.com, voilà. Donc ça s'appelle WordPress 4, la formation dure 6h19, c'est découpé en 60 petites leçons, ça coûte 49,90 € et le formateur s'appelle Olivier Gobet et c'est une personne qui est extrêmement pédagogue, c'est extrêmement bien fait et voilà en 6h19 ou beaucoup moins. Bon, évidemment, vous n'allez pas en 6h19, rester 6h19 collé à votre écran, mais vous saurez faire un site internet professionnel, facile à mettre à jour, facile à mettre en ligne, parce qu'il vous explique aussi comment l'installer sur le centre serveur internet, hein, que ce soit d'ailleurs, je crois qu'il parle de OVH et de OneN1. Et il explique aussi, c'est ce que j'avais oublié, comment acheter un nom de domaine. Donc vraiment, si vous décidez de faire vous-même un site internet pour économiser un budget qui peut être conséquent, je vous engage, regardez s'il y a d'autres CMS qui vous intéresseraient plus. Mais sinon, WordPress, encore une fois, WordPress 4, c'est un excellent outil, gratuit, sur lequel on se forme extrêmement vite. Et vous serez très satisfait et peut-être fier d'avoir pu maîtriser ce genre de technique qui vous sera utile dans le lancement de votre cabinet. Alors, il y a l'autre possibilité, c'est de le faire faire par un prestataire. Alors en France ou à l'étranger, on a toutes sortes de prix. Et surtout en France. Alors en France, la grande spécificité, vous allez sur, si vous cherchez sur Google, création de site internet, alors effectivement, il y aura des gens qui vont vous proposer des interfaces comme ça, où vous pourrez aussi mettre en œuvre des sites internet. C'est très compliqué. Vous avez un abonnement mensuel. Ça coûte beaucoup plus cher dans tous les cas que. Alors, l'abonnement mensuel, ça peut être à 20, 30, 40, 50 euros. Chaque fois que vous aurez une modif, si vous n'y arrivez pas trop, vous allez leur demander de vous aider et ils vont vous faire payer quelque chose. Bref, c'est hors de prix comparé à ceux que j'ai développés précédemment, le créer soi-même via WordPress par exemple. Donc, ça, c'est le premier point. Ce sont des sites internet par abonnement où vous allez mettre en œuvre votre site. Maintenant, ça peut vous intéresser, hein. Consultez, vous verrez. Après, il y aura des prestataires. Donc, c'est ce que j'allais dire. En France, la grande spécialité des prestataires, c'est demander un devis. Ça veut dire, on va essayer de comprendre si vous avez de l'argent, si vous êtes riche ou pas, et on va vous faire un prix à votre tête. Ça, c'est la grande spécificité. Parce qu'à l'étranger, c'est pas comme ça, hein. Notamment aux États-Unis, dans d'autres pays où les prix sont clairement affichés, c'est tant, 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 c'est très précis. Ici, c'est demande de devis. Et puis en plus, on vous dit devis gratuit. Ben, heureusement, manquerait plus que ça. Ben, justement, non, parce que voilà, il y a aussi des prestataires qui vous font payer le devis. Bon, sur Internet, ça n'existe pas, mais dans d'autres domaines, ça existe. Bon, moi, je fuis ce genre de choses, la demande de devis d'un prestataire français. Qui me fera payer dans tous les cas, même si j'ai pas d'argent, plus cher qu'un prestataire étranger, je laisse tomber tout de suite. Voilà. Maintenant, vous pouvez connaître des gens qui vous feront un travail de qualité pour un prix modique. Vous pouvez aussi connaître, vous avez peut-être dans vos relations ou dans vos proches, quelqu'un qui fera un travail de qualité gratuitement. Un ami ou votre conjoint, votre conjointe, qui va vous faire votre site pour rien du tout, parce qu'il maîtrise le CMS ou parce qu'il maîtrise le HTML. Bon, là, de ce côté-là, il n'y a pas à tergiverser, vous acceptez la proposition. Donc, comme je le disais, moi, je fuis les Français, pour ces raisons, parce qu'ils sont chers, parce qu'ils ne sont pas transparents, et que leur qualité, n'est pas, si extraordinaire que ça par rapport à la masse d'étrangers que l'on peut trouver sur des plateformes assez intéressantes. Quand je dis plateformes, ce sont des sites internet. Et là où on retrouve des milliers, voire des dizaines, voire des centaines, voire des millions de freelancers. Alors il y a des freelancers qui sont à la fois. Alors ça dépend, il y a des designers, il y a des créateurs de sites internet. Ça, c'est pour ce qui nous intéresse. Après, sur ces plateformes, il y a d'autres freelancers qui vont intervenir dans le domaine juridique, dans le domaine du dessin papier comme ça ou informatique, qui vont intervenir dans la création de logos, dans la création de designs divers et variés, dans l'audit, dans le conseil, dans la comptabilité, etc. Mais bon, c'est surtout des plateformes où il y a énormément de programmeurs et de designers qui sont à même de faire votre site internet. Donc là, je vous donne deux, trois adresses et vous retrouverez dans la rubrique téléchargement ou documents, voilà, une liste également de ces sites internet. Alors, il y a le plus gros qui s'appelait auparavant Odesk et qui a mergé, enfin qui a fusionné avec une autre plateforme, j'ai oublié le nom. Bon, bref, les deux plus gros ont fusionné et ça s'appelle maintenant Upwork.com, Upwork, Upwork.com. Donc l'inscription est gratuite. Alors par contre, sachez que celle-là, ça c'est tout se fait en anglais, hein. L'inscription est gratuite et vous pouvez chercher avec différents filtres des programmeurs. Bien souvent, vous allez avoir des offres et là, vous laissez comment ça s'appelle, une proposition. Voilà, vous dites, encore une fois, tout se fait en anglais, donc il faut que vous maîtrisiez un peu l'anglais quand même, hein. Mais c'est assez basique, hein, si on peut le maîtriser de façon basique, hein. Et vous allez vous passer cette annonce, on va dire, cet appel d'offres, voilà, je cherchais le terme, et vous allez avoir alors là des dizaines et des dizaines de propositions à tous les prix. Vous allez pouvoir cliquer sur la fiche de la proposition, vous verrez qu'il propose, il y a des références. Voilà. Après, vous pouvez discuter en ligne avec le freelancer qui vous contacte. Voilà, soit vous vous lancez. Alors sachez que toutes ces plateformes, vous allez devoir déposer de l'argent auprès de la plateforme pour sécuriser le paiement du freelancer. S'il y a un problème avec le freelancer, sachez que vous ne récupérerez pas votre argent. Donc à la limite, si vous travaillez dans cette configuration hein, avec des plateformes de freelancer, choisissez des formules de paiement fractionnées où vous allez au fur et à mesure de l'avancement de votre site internet livrer voilà, 20 dollars, 50 dollars. Vous aurez énormément de propositions de la part d'Indiens ou de Pakistanais. Les Indiens sont en général plus sérieux que les Pakistanais. Il y aura aussi beaucoup de Chinois, quelques Français, il y a peu de Français, des Américains, des Européens en général. Vous travaillez avec les affinités qui vous correspondent le mieux. Les Indiens, qui ont beaucoup d'expérience en la matière, hein, beaucoup d'entreprises délocalisent, internationales délocalisent leur réalisation de sites internet dans ces pays-là. Ils ont un savoir-faire en informatique assez poussé. Chez les Indiens qui vous feront des propositions, c'est comme toujours, il y a du bon grain et de l'ivraie. Voyez leurs références. Essayez de chercher un peu si leurs références sont réelles ou pas. Discutez avec eux. Et puis surtout, encore une fois, si vous choisissez cette possibilité de travailler avec une plateforme de freelancer, une fois que vous avez sécurisé l'argent auprès de la plateforme, déjà vous ne sécurisez pas tout, vous essayez de comprendre comment ça marche et vous sécurisez un quart ou un tiers et vous délivrez par étape voilà, dans ce quart au fur et à mesure de l'avancement du travail des fractions du budget à votre freelancer qui réalise votre site internet. Donc disais-je, il y a du bon grain et de l'ivraie chez les développeurs Internet, donc à vous. Bon, je vous parle de cette option. Moi, j'ai souvent travaillé avec des freelancers hein, pour différentes, parce que j'ai d'autres activités, pour différents sites Internet et des applications mobiles. J'ai souvent eu des bons résultats. J'ai eu aussi quelques difficultés, pour ne pas dire quelques galères et quelques déceptions. Des gens qui paraissaient très bien et qui disparaissaient du jour au lendemain. Voilà, donc là, la plateforme a tout remboursé. Plus de contact, assez étrange. Il y a un peu de tout. Voilà. Donc, c'est vrai que dans l'idéal, pour vous lancer, alors, justement, là aussi, il y a un budget, ça a un coût, même si chez les Indiens, par exemple, ça va vous coûter très peu cher. Ça va demander une dépense d'énergie à essayer d'expliquer ce que vous voulez et aussi à suivre un peu l'avancement du travail. J'en reviens. Donc, non, avant de revenir à ça, je voulais juste vous donner deux, trois, comme ça, de vive voix, deux, trois noms de plateformes de freelancers. Donc il y a Elance, ah ben voilà, c'est Elance et Odesk qui ont fusionné et s'appellent donc Upwork.com. Il y a un site français, enfin qui a .fr, mais je ne sais pas ce que ça donne. Il y a beaucoup moins que sur Upwork. Sur Upwork, il y a des millions de collaborateurs. Hein. Sur Upwork.fr, donc c'est www.hopwork.fr. Là, ils sont une dizaine de milliers environ. Il y en a une autre très connue. Je ne retrouve pas son nom. C'est pas grave, je retrouverai ça dans le. Attendez, je vais regarder sur Internet. Là, je tape freelancer. Ah bah oui. Bien évidemment, il y en a une autre qui s'appelle bah, tout simplement freelancer.com qui est énorme aussi. Donc freelancer.com. freelancer.com. Encore une fois, je vous remettrai tous les noms dans la rubrique téléchargement. Voilà, alors si vous travaillez avec des freelancers, dans l'idéal, privilégiez les étrangers si vous maîtrisez un peu l'anglais parce que. Le problème des plateformes de freelancers françaises, c'est que déjà elles sont peu nombreuses. Sur ces plateformes, il y a peu d'offres, de services, et les prix sont toujours beaucoup plus onéreux que ce que vous trouverez à l'étranger, que ce soit des Européens divers et variés, Portugal, Espagne, Italie, voire même Allemagne, que ce soit États-Unis. Non, États-Unis, ça reste toujours cher, Canada aussi. Canada, parfois on a des tarifs intéressants, mais que ce soit Europe de l'Est, Roumanie, République tchèque, Russie, voire même Albanie, Serbie, Hongrie. Moi j'ai travaillé avec des gens qui ont fait des choses tout à fait extraordinaires en Ukraine, un graphiste absolument génial hongrois. En Europe de l'Est, il y a des gens tout à fait sérieux, qui maîtrisent tout à fait leur art, quel qu'il soit, et ça vaut le coup parfois de passer par eux. Maintenant, encore une fois, il y a du bon grain et de l'ivraie partout. Voilà. Ça, c'était pour la rubrique comment on crée son site internet. Et pour conclure ce point sur comment on fait son site internet, moi je vous incite, si vous avez un peu de temps, et c'est vraiment a priori comme ça, on se dit oulala, ça va être difficile et on a tendance à faire un pas en arrière, mais je vous invite à réfléchir à ça. Et si je le faisais moi-même? Voilà, acheter un nom de domaine sur internet, c'est pas difficile. Acheter un hébergement sur internet, c'est pas difficile, un hébergement où mettre ses pages, surtout si on passe par le même prestataire, soit oneandone.fr, soit ovh.com. Se former à WordPress, comme je vous l'ai montré, ça coûte pas grand-chose et c'est très rapide et vous pouvez être opérationnel en quelques jours et créer votre site vous-même après quelques ajustements, avoir un truc vraiment très pro, très rapidement. À un coût défiant toute concurrence, puisqu'on peut le résumer à, on va dire, une quinzaine d'euros le nom de domaine, une vingtaine d'euros ou une trentaine d'euros l'hébergement, et WordPress, c'est gratuit. Voilà. Donc, et plus, pardon, voilà, les 50 euros de formation et les formes en ligne. Voilà, donc, ça vaut vraiment le coup, parce que sinon, alors certes, avec si vous travaillez avec des freelancers étrangers, vous aurez peut-être pour quelques pages, parce que votre site au début il fera que quelques pages. Même d'ailleurs le mien il ne fait que quelques pages, il n'y a pas grand-chose quoi. Vous aurez effectivement un coût qui sera peut-être, voilà, j'en sais rien moi, 200 euros, 300 euros. Et plus, vous aurez quand même les frais d'hébergement et les frais de nom de domaine. Donc quelque part ça vaut peut-être le coup d'apprendre à faire soi-même. Soi-même avec WordPress, son site internet, sachant que beaucoup de freelancers ne s'embêtent pas. Ils vont aussi vous proposer du WordPress en vous disant bah oui, c'est très facile à mettre en œuvre, ça sera pas cher, etc. etc. Et c'est vrai. Et puis c'est très pro et très joli. Voilà. Et encore une fois, réfléchissez à tout cela, discutez-en avec des proches qui ont peut-être des capacités dans le domaine. Renseignez-vous et. Sachez et soyez persuadé que c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre ce type de choses qu'on ne le croit. Et c'est un néophyte en informatique comme moi, même si à la longue j'ai acquis une certaine expérience, mais elle est quand même assez dérisoire, hein, elle est vraiment infime. C'est un des néophytes comme moi en informatique qui vous le dit. Voilà, donc maintenant nous allons voir comment promotionner son activité, comment se faire connaître, que ce soit sur Internet ou, parce que j'ai beaucoup appuyé sur Internet dans le début de ce chapitre, mais il n'y a pas qu'Internet, même si il y a quand même, ce sera un vecteur important qui vous pourvoira une clientèle. Bon, la phrase n'est pas très jolie, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a d'autres vecteurs, on va en discuter, et puis on reviendra aussi sur la promotion, du site internet. À tout de suite. Alors, continuons sujet d'Internet, vous avez peut-être le sentiment, encore une fois, que je m'appesantis et que je reste un peu longtemps sur l'Internet, mais il y a de fortes chances que l'Internet, lorsque vous pratiquerez, sauf si bien évidemment vous êtes médecin ou une autre profession réglementée, médicale ou paramédicale, et là c'est quand même, il faut bien le dire, la sécurité sociale qui finalement vous envoie du monde, dans la mesure où les gens, pour la plupart étant remboursés, ils n'hésitent pas à aller chez le premier intervenant venu dans sa rue, ou qu'on lui a recommandé pour consulter, alors que si vous ne pratiquez que la psychothérapie ou l'hypnothérapie, là, va falloir faire cette démarche commerciale et vous aurez donc une grosse partie aujourd'hui de votre clientèle qui viendra de votre promotion payée en tout gratuite sur Internet. Alors, abordons le sujet justement de la promotion gratuite. Ben là, c'est ce qu'on appelle le référencement sur Internet, notamment sur le support de recherche le plus connu qui est Google. Aujourd'hui, il y a 90 à 95% des recherches qui sont faites en France sur Google. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a comme implication par rapport à ça? Ça veut dire que si vous devez payer de la publicité, ça se fera sur Google. Oubliez tout de suite l'idée de passer par d'autres vecteurs comme Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, Bing.fr, Bing.fr ou Yahoo.fr ou Yahoo.fr ou Facebook. Oubliez ça tout de suite, vous dépenseriez votre argent pour pas grand-chose. On a déjà vu aussi les pages jaunes. Alors les pages jaunes vont vous prospecter ou vous allez vous-même les contacter en pensant que le vecteur des pages jaunes, cette fois-ci pas papier mais en ligne, est intéressant. Alors, pour les villes moyennes ou les petites villes, en province, il est peut-être intéressant en fonction du budget, dans la mesure où il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire que vos concurrents ne sont pas nombreux. En fonction du budget et en fonction des retours que vous aurez. Si c'est sur Paris ou la région parisienne, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle et le jeu, bien souvent, ne vaut pas le coup d'être tenté. Ça, c'est une expérience personnelle il y a un certain temps, une quinzaine d'années, et puis surtout des retours depuis des années régulièrement de professionnels, pas uniquement d'hypnose, mais de psychothérapie au sens large, où il y a justement en Paris et en région parisienne tellement de monde qu'il faut être couvert partout dans tous les arrondissements, il faut être référencé dans tous les arrondissements pour avoir un minimum de visibilité avec des modules complémentaires pour avoir encore une fois un peu plus de visibilité. Et là, on arrive à des budgets très conséquents. Alors oui, il y a du trafic, oui, il y a de la visibilité, mais ce qui se transforme concrètement en prospect ou en rendez-vous via les pages jaunes, c'est extrêmement limité. Donc, libre à vous, hein, si vous voulez tenter l'expérience, au bout d'un an, vous aurez vite vu ce que ça vous rapporte ou pas, que ce soit en province, dans des grandes villes, petites villes ou villes moyennes, ou que ce soit à Paris et en région parisienne. Je pense pour ma part, mais je ne l'ai pas pratiqué, que dans les petites villes, en province, des villes, je ne sais pas, entre 15 et 40 000 habitants, peut-être qu'il y a un intérêt d'être référencé sur les pages jaunes papier, Internet, le site des pages jaunes, pagesjaunes.fr. Maintenant, tout dépend encore une fois du budget que le commercial des pages jaunes vous proposera. Voilà. Donc il y a sur Internet deux catégories de promotion pour votre site Internet, puisqu'encore une fois, le gros de votre clientèle viendra de l'Internet, soit gratuite, soit payante. Gratuite, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on appelle le référencement, c'est-à-dire que votre site est présent sur les différents moteurs de recherche, comme Google, Bing, Yahoo, etc. Sachant qu'encore une fois, Google fait entre 90 et 95% des recherches Internet. Alors, le référencement naturel, c'est la définition d'une technique qui fait que votre site va monter tout seul au fur et à mesure. Alors là, bon, ne vous leurrez pas. En province, peut-être, oui, effectivement, parce que c'est géolocalisé tout ça. Les recherches sont géolocalisées grâce à votre adresse IP, c'est-à-dire l'adresse de votre ordinateur. Google sait que vous êtes à Bourges, à Lyon, à Marseille, ou dans un village à côté de Pau, ou à Paris, encore dans quel arrondissement, ou à Issy-les-Moulineaux, etc., etc. Il le sait très précisément, quoi. Donc il va vous afficher les résultats en fonction de votre géolocalisation. Donc en province, le référencement naturel peut avoir un certain intérêt, c'est-à-dire que même s'il y a un peu de concurrence, pas de nombreux hypnothérapeutes dans votre quartier, vous pouvez apparaître assez facilement. Maintenant, tout dépendra de la conception de votre site. Ça, je vous engage à lire, si vous le souhaitez, quelques avantages à comprendre un peu comment bien construire son site pour être bien référencé. En sachant que sur WordPress, dont je vous ai parlé précédemment, il y a un outil qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle Yoast, 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 qui est une extension qu'on rajoute à son panel administrateur pour gérer son site internet à WordPress. C'est une extension qui est gratuite et qui vous facilite grandement le référencement naturel. Maintenant, si vous êtes à Paris ou en région parisienne, c'est un peu plus difficile d'être bien référencé. Bien référencé, et ça c'est valable pour quelle que soit la localisation, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire être sur la première page. Voilà, la plupart des gens, et encore la première page de Google, on est d'accord. La plupart des gens ne descendront pas en bas de la page et n'iront pas jusqu'à la page 2. Ils vont se contenter de cliquer sur les publicités AdWords qui sont en haut de page de Google ou sur le côté ou sur les premières pages. Et il faut savoir que même s'il y a des techniques pour optimiser le référencement naturel, ce sont des techniques très pointues, ce sont des professionnels qui vous les font payer, ce sont ce qu'on appelle des référenceurs. Et même ces gens-là, sauf les escrocs, même ces gens-là ne peuvent pas vous garantir d'être sur la première page et d'être bien référencé. Donc méfiez-vous des référenceurs qui vont vous contacter. Alors pourquoi je dis sauf les escrocs? Parce qu'eux, ils vont vous faire payer cher ou pas cher d'ailleurs, la possibilité d'être sur la première page. Bien évidemment, vous n'y serez pas, sauf lorsqu'on vous dit, bah oui, vous serez sur la première page avec 3, 4 ou 5 mots-clés. Donc évidemment, si l'intérêt c'est d'être sur la première page avec Hypnose ou Hypnose Tarbes ou Hypnose Paris ou Hypnose Marseille ou Hypnose L'Union, qui est une petite ville à côté de Toulouse, ou Hypnose Genis, qui est un village en Dordogne, voilà l'intérêt. Si effectivement vous avez construit vous-même votre site internet et que vous êtes à Genis par exemple en Dordogne, un petit village, et vous avez mis ces mots-clés où ça apparaît dans vos textes, vous pouvez être sûr que une fois que votre site sera en ligne, une fois que Google l'aura référencé automatiquement, très vite vous apparaîtrez sur la première page. Hypnose Genis, les mots-clés, il ne doit pas y en avoir 40, donc vous serez premier, deuxième ou troisième. Donc là, il y aura du trafic, et peut-être même avec les villages d'à côté, vous aurez de la clientèle. Idem pour, je sais pas, pour Cahors, etc., etc., où il y a peu de concurrence. Maintenant, si c'est à Paris, encore une fois, là, vous êtes perdu avec les mots génériques, etc. Donc pour revenir à ce que je vous disais, les mots génériques comme hypnose. Alors là, comme il y a pléthore, c'est difficile d'être, pour ne pas dire impossible. Et idem pour les référenceurs, en fait, ils peuvent optimiser les sites, mais ils ne peuvent garantir en rien, ils ne maîtrisent pas le fait d'être sur la première page ou pas. Par contre, ce dont je vous parlais, c'était l'escroc qui va vous dire, vous serez moyennant 1 500 euros par an, vous serez sur la première page, je vous le garantis, si avec 3 ou 4 mots-clés. Ah bah oui, forcément, si par exemple les mots-clés c'est Jean-Luc Touraine, Hypnose Paris, Ça, c'est certain que je tape ça dans le champ de recherche Google. Oui, forcément, j'apparaîtrai en première page. Jean-Luc Touraine, Hypnose Paris. Oui, ça, je vais pas apparaître en première page. Et peut-être il y aura deux, trois liens de mon site qui sera dans les trois premières pages. Par contre, si c'est Hypnose Paris, bah, là, j'apparaîtrai pas. Hypnose Touraine, oui, là, j'apparaîtrai. Voilà, tout ça pour dire que méfiance avec les référenceurs. Lorsqu'on vous propose de payer le référencement naturel, sachant que le référencement naturel, vous pouvez le faire vous-même, notamment avec WordPress, facilement, avec cette extension qui s'appelle Yoast, mais il y en a d'autres, hein, encore une fois, Yoast, Yoast, qui est gratuite. Et si vous êtes en province, dans des villes peu importantes, ou petite, c'est vraiment très intéressant. Vous aurez des budgets publicitaires qui seront proches de zéro. À Paris, malheureusement, la démarche sera différente. Enfin, quand je dis en province des budgets publicitaires proches de zéro, tout le monde ne vit pas non plus dans des petites villes ou des départements et des régions peu peuplées. Donc il y a, pour ces gens-là, hein, qui vont aussi vivre dans des grandes villes et qui pratiquent, exercent dans des grandes villes, l'autre démarche qui est de payer la publicité, notamment sur Google, puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit, 90-95% des recherches françaises se font sur Google, donc pas la peine d'aller s'installer sur Bing, Yahoo, PageJaune, etc., etc. Alors, AdWords, je vous mettrai un lien dans la rubrique téléchargement avec toutes ces adresses. Je vous mettrai un lien comment utiliser AdWords, directement conçu, une page d'aide directement conçue par Google. Il y aura peut-être même un petit document PDF pour vous aider à comprendre, ou peut-être même une formation en ligne de quelques minutes, hein. Tout ça, vous le trouverez dans la rubrique téléchargement. AdWords, c'est quoi? Ben, en fait, ce sont des modules publicitaires qui s'affichent en fonction de votre budget, qui s'affichent sur la page de recherche. Lorsque les internautes vont taper Hypnose Tarbes, s'affichera des modules publicitaires dans une couleur différente que le résultat de recherche gratuits, hein, qui sont en général noirs, bleus, etc. sur le fond blanc de Google. Là, ça sera dans des petites cases de couleurs vert pâle, si je me souviens bien. Alors maintenant, méfiance. AdWords, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire, tout ce qui touche Google, c'est une usine à gaz. Vous payez, en fait, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre publicité. Pas l'affichage, il y a plusieurs possibilités en fait. Vous pouvez sélectionner à l'affichage, par exemple 1000 affichages, 2000 affichages, ou au clic à la publicité, etc. etc. C'est une usine à gaz, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Il faut y aller tout doucement, il faut faire des tests, il faut se renseigner à la fois sur les pages d'aide de AdWords. Ou sur Internet, il y a des tonnes de blogs ou de sites qui parlent de la publicité Google et des astuces pour ne pas trop dépenser. Et il faut mettre des petits budgets parce que votre budget, surtout si vous êtes dans les grandes villes, il va partir très vite. Parce que les gens, eux, peu importe pour eux que le résultat sur la page qui s'affiche pour eux est un résultat naturel et gratuit ou un module AdWords, eux ils cliquent, ça leur coûte rien. Par contre, vous, ça vous coûte. Et comme vous pouvez payer, alors vous pouvez payer 1,50 € le clic, vous pouvez payer 5 centimes le clic, 30-40 centimes le clic, tout va dépendre du logiciel, de l'algorithme de Google. Qui va prendre en compte des notions comme votre localisation, comme la concurrence, comme votre budget publicitaire, comme le choix du coût par clic que vous avez défini ou pas, ou d'autres formules, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Vous serez obligé d'y venir. Et là, je ne peux pas effectivement développer plus sur AdWords. Je vous renvoie directement à AdWords et à tout ce que vous pourrez lire sur Internet. en sachant qu'il faut vraiment y aller de façon très méfiante, ne pas quotidiennement mettre un budget important, hein, même 5 euros de budget, ça peut faire 150 euros au bout du mois, et plus bien évidemment, en fonction de votre localisation, etc., etc., c'est quelque chose qui, sur lequel il faut vraiment y marcher sur des œufs, Google AdWords. Vous l'apprendrez avec le temps. Vous l'appréhenderez avec le temps. Vous pouvez aussi commencer à bien vous instruire là-dessus avant de le lancer. C'est aussi une bonne démarche pour éviter de dépenser beaucoup d'argent. Il faut mettre des garde-fous par rapport au montant du budget quotidien, des mots-clés que vous souhaitez mettre dans votre annonce ou qui vont plutôt, pardon, déclencher l'affichage, la recherche et l'affichage de votre annonce. Vous pouvez exclure des mots-clés. Ça, c'est très important. Par exemple, si on prend hypnose, il faudra exclure le mot-clé hypnose parfum. Donc, vous pouvez l'exclure sur votre interface Google AdWords, exclure le mot-clé hypnose parfum de votre campagne. Pourquoi? Parce que si quelqu'un tape hypnose et qu'il cherche le parfum, votre annonce peut s'afficher. Il peut cliquer dessus et donc vous faire perdre 50 centimes, 5 centimes, 1,50 € en fonction de votre localisation et de la concurrence à chaque clic. Sauf que lui, en fait, c'est ce qu'on appelle un touriste. Peu importe la pratique hypnothérapeutique que vous proposez. Lui, il cherchait du parfum, il clique. Bon, ça n'intéresse pas, il reste 2 secondes sur votre page, il revient sur la page de Google, il recherche, soit il fait back sur son navigateur, soit il revient sur votre page, sur la page Google, mais il va chercher son parfum. Le problème sur Internet, c'est qu'il n'y en a pas qu'un seul qui va faire ça. Il y en a au quotidien en France des milliers, des dizaines de milliers. Là, j'ai cité un exemple, mais ça peut être d'autres termes où il y aurait potentiellement hypnose. Ça pourrait être hypnose gratuite. Ce sont des gens qui ne sont pas intéressés par vos services, mais qui vont quand même cliquer. Et sur la masse, ben vous allez perdre tout votre budget pour pas grand-chose. Voilà, ce sont des astuces à connaître. Et pour les connaître, il faut s'informer sur les outils de Google ou sur l'Internet. Alors, soit vous l'expérimentez au fur et à mesure, soit vous dégrossissez un peu sur ça avant de lancer votre campagne de pub. Je pourrais, moi, au téléphone, on pourra ensemble, ou si on se rencontre en cabinet, une fois que vous avez créé votre site internet et ouvert votre compte AdWords, je peux vous donner des conseils, hein, je peux vous expliquer, vous montrer, même si ce n'est pas vraiment mon travail, et si j'ai le temps, bien évidemment, je peux vous expliquer tout ça. Mais vous pouvez aussi vous-même faire la démarche de vous documenter, notamment avec les outils Google d'aide, ou les forums d'aide Google qui sont très bien faits par rapport à ça, quoi. Voilà, donc ça c'est l'aspect publicitaire de la chose, du référence, pour faire connaître votre site internet et votre activité. Approfondissez-le, c'est très important parce que, encore une fois, l'internet et notamment Google seront les premiers vecteurs, pour ceux qui lancent un cabinet et qui n'ont pas d'activité connexe, les premiers vecteurs qui vous amèneront de la clientèle. Alors, maintenant, il y a plein d'autres possibilités pour se faire connaître et qui relèvent du bon sens ou de l'esprit d'entreprise. N'oubliez pas que vous devez développer votre activité et donc vous devez développer votre, entre guillemets, bon sens commercial ou votre esprit d'entreprise. C'est une démarche aussi commerciale. Vous avez des charges à payer. Si vous décidez de ne vivre que de ça, c'est quand même important. C'est même fondamental d'avoir des clients. Si vous avez d'autres activités connexes, c'est parfait. Mais pourquoi ne pas développer aussi cette activité hypnothérapeutique? Donc, quelles autres possibilités? Vous êtes à Paris, dans une grande ville, il y a de la concurrence, ou vous êtes en province, dans une région peu peuplée, avec des villages, vous êtes dans une petite ville, c'est pareil. Là, il y a des possibilités qui sont équivalentes. La première, si vous n'êtes pas médecin, c'est de vous faire connaître auprès des médecins, sachant que, bien évidemment, la relation sera différente si vous êtes à Paris ou en province, et en fonction de la grandeur de la ville. Certains médecins vont vous connaître et vont vous renvoyer du monde. Beaucoup au départ, soit vous les appelez, soit vous les rencontrez, soit vous leur écrivez, beaucoup seront peut-être un peu réticents. Ce qui ne veut pas dire qu'ultérieurement, une fois qu'ils auront entendu parler de vous par certains de leurs clients, ils ne vous renverront pas du monde. Aujourd'hui, on a cette chance. Moi, quand j'ai commencé à travailler en hypnose, il y a plus d'une vingtaine d'années, il y avait très peu d'hypnothérapeutes, y compris à Paris. Beaucoup d'ailleurs n'utilisaient pas le terme hypnose. Soit c'était la relaxation, soit c'était la sophrologie, soit c'était enveloppé dans une autre technique mentale. Mais aujourd'hui, y compris chez les médecins, hein, il y a des médecins qui pratiquaient l'hypnose, notamment des psychiatres, et qui n'utilisaient pas le terme hypnose. Aujourd'hui, l'hypnose et l'hypnothérapie est acceptée, y compris chez les médecins qui sont susceptibles de vous renvoyer du monde, et pour beaucoup qui ne pratiquent pas l'hypnothérapie, lorsqu'ils auront entendu parler, soit par la presse, soit par des patients à eux, s'ils vous connaissent d'une manière ou d'une autre, ils n'hésiteront pas à vous renvoyer du monde. Hein. Notamment, moi j'ai énormément de médecins qui me renvoient du monde pour les phobies de l'avion, pour la modification des comportements alimentaires, et surtout, que ce soit des médecins ou des dentistes, et surtout pour l'arrêt du tabac. Donc voilà, vous pouvez vous faire connaître auprès des médecins. Là, bien évidemment, vous aurez toutes sortes de retours, hein, soit agréables, soit désagréables. Bon, ça c'est classique. Vous pouvez aussi vous faire connaître auprès des pharmaciens. Alors, si c'est en province, dans des petites villes ou des villages, que ce soit le ou les médecins, le ou les pharmacies, l'approche est plus simple, puisqu'il y a quand même moins de monde sur le marché. Si vous êtes, et on est moins anonyme quelque part, si vous êtes dans des très grandes villes, la démarche, finalement, même si on est un peu plus anonyme et on se connaît un peu moins, elle est plus ou moins équivalente parce que ça peut se faire au niveau local, c'est-à-dire, si c'est Paris par exemple, c'est de son quartier, de son arrondissement, vous voyez, on essaie de rester local. Donc les pharmacies, les médecins, dans les petites villes ou les villes moyennes, ça peut être les petites annonces, dans les supermarchés, dans les mairies, dans les CMP, où on peut se faire connaître dans les CMP aussi, centres médico-psychologiques, hein, comme hypnothérapeute, où officient des psychothérapeutes, notamment des médecins, des psychiatres. Dans les villes moyennes, ou dans les petites villes, il y a souvent un correspondant local de la presse générale, hein, régionale. Donc, par exemple, si c'est Toulouse, d'où je suis originaire, il y a la Dépêche du Midi, qui est un gros quotidien régional. Et dans chaque petite ville, il y a un correspondant, plus ou moins important. Et ce sont des gens qui sont assez friands d'articles un peu originaux. C'est trois colonnes, hein, mais ça suffit pour vous présenter et pour vous attirer du monde, parce que les gens lisent et aiment beaucoup, beaucoup plus d'ailleurs que les actualités nationales et internationales. Ils sont surtout friands en province dans les quotidiens régionaux, de l'aspect local de la vie locale. Donc ça, c'est très intéressant, c'est assez simple. Pour découvrir le nom du correspondant régional, en général, régional mais local, c'est de votre ville, de votre quartier. En général, le nom est noté, donc il est assez facile de le retrouver. Parfois, ils ont des bureaux sur place. Sinon, de toute façon, en passant par la rédaction centrale dans votre ville, vous le trouverez. Et ça, c'est extrêmement facile en région d'obtenir des articles. Lorsque vous lancez votre activité, contactez-les pour dire voilà, monsieur, madame un tel, hypnothérapeute, pratique telle technique. Parfois c'est bien d'ailleurs, on leur fait un mail, on écrit ce qu'on veut et ils publient ça. Voilà ses coordonnées, etc., etc. Bon, il peut broder aussi, c'est ce qui arrive aussi. C'est ce qui arrive aussi, mais n'hésitez pas à donner le plus d'informations et vous obtiendrez souvent un bon résultat. Au niveau national, c'est plus difficile. Au niveau des grandes villes comme Paris, ou Lyon, Marseille, c'est un peu plus difficile aussi. Là, il faut avoir quelque part, ça vaut le coup de tenter aussi, hein. Il y a des journaux comme à Paris, par exemple, Le Parisien, où il y a toute une rubrique, enfin tout un cahier local, ville par ville, et là, ça, on peut le tenter aussi, et j'imagine que dans les autres grandes villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, c'est exactement le même cas. Sinon, effectivement, il faut avoir une raison de se faire promotionner et qu'un journaliste veuille bien vous écouter en précisant que vous êtes aussi hypnothérapeute, que vous pratiquez à telle adresse. Et cette raison, bah, ça peut être ce qui se fait assez fréquemment, c'est l'écriture d'un petit guide ou d'un livre sur l'hypnose. Et donc voilà, vous lui expliquez, j'ai écrit un bouquin, je travaille dans votre région, voilà mes coordonnées, le bouquin c'est sur l'hypnose qui marche bien en ce moment. Bon, alors, en ce moment il faut bien dire que l'hypnose est un peu médiatisée à toutes les sauces, donc dans les grands quotidiens ça va être plus difficile. Voilà, alors quoi encore comme technique? Bah si, tiens, bah justement, écrire un petit bouquin, hein, quelque chose de très simple. Alors soit vous allez vous faire éditer si vous avez des connaissances, soit vous pouvez le faire éditer pour trois fois rien maintenant, publier, enfin imprimer, etc., avec une forme très, très propre, etc., pour trois fois rien, on trouve ça. Et là, vous pouvez faire des petits salons régionaux ou locaux. Donc un petit stand de rien du tout qui présente votre bouquin et ça attire toujours du monde. Vous distribuez vos cartes et je peux vous garantir que ça c'est quelque chose qui ramène aussi du monde. Alors comment promotionner encore son activité hypnothérapeutique si vous êtes connu, si vous avez une activité connexe et que vous vous reconvertissez ou que vous vous reconvertissez après avoir eu une carrière ou fait quelque chose d'extraordinaire, ben là vous pouvez aussi obtenir de la télévision nationale, c'est plus rare, la télévision locale, c'est possible. Télévision nationale, moi pour ma part, comme à Paris, ben, je suis un peu connu dans le domaine, j'ai fait. On m'a souvent contacté pour des articles, etc., etc. Souvent pour de la télé. J'ai toujours refusé la télé parce que la télé, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit. C'est-à-dire qu'ils sont bien gentils, ils viennent vous interviewer, pardon. Vous avez l'air très sympathique, etc., etc. Et eux, au montage, ben, ils vont faire de vous quelqu'un de très méchant, ou d'allumé, ou enfin bref, ils vont monter tout cela à leur sauce, et vous n'avez absolument pas la maîtrise de cela. Donc c'est quelque chose qui peut casser une carrière, quoi. Qui peut aussi vous ramener du monde, d'ailleurs, mais plus casser une carrière qu'à ramener du monde. Donc la télé, méfiance. Chacun l'appréhende comme il souhaite. Hein. Si vous avez par chance la capacité d'être interviewé, de faire des télés, etc., etc., libre à vous d'y aller. Moi, la télé, ça a toujours été niette. Parce que dans une vie précédente, dans une activité, lorsque je finissais mes études précédentes, où j'ai eu la possibilité aussi de faire des télés, etc., ou du moins de participer à des interviews, etc., je me suis rendu compte que c'était extrêmement dangereux. Bon, voilà, on a embrassé, pardon, un peu toutes les possibilités de se promotionner. Donc je vous l'ai dit, il y a l'Internet, bien évidemment, qui sera un vecteur essentiel. Voilà, on est passé des pages jaunes à une époque à l'Internet, ou alors le commerce dans la rue à l'Internet. Vous n'avez pas de vitrine, donc il faut se faire connaître. Votre vitrine, ça sera votre site Internet. On a vu aussi les publicités, ce qu'il fallait faire, ne pas faire, donc oublier tout sauf AdWords, y compris oublier les pages jaunes. Maintenant, ça c'est un point qu'on a déjà parlé, que vous allez vous-même développer ou pas avec vos propres retours là-dessus. La presse, on en a parlé aussi. Les relations, bien évidemment, ça on n'en a pas parlé, mais ça tombe sous le sens, hein, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui vous connaissent, des amis, des proches, bah, rien ne les empêche, lorsqu'ils sont face à leur cercle professionnel, social ou familial, et certaines personnes qui sont en difficulté, bah, de parler de vous, et vous, de défaire avant cette démarche, de leur parler à eux-mêmes de votre technique et de leur expliquer. Voilà. On a vu le démarchage local, hein, médecin, pharmacien, mairie, les petites annonces diverses et variées. Rien ne vous empêche de, encore une fois, de mettre à chaque fois qu'il y a un tableau de petites annonces, de demander, même dans une boulangerie, hein, est-ce que je peux. Voilà. Alors c'est vrai que ça paraît un peu bizarre de mettre sa petite annonce dans une boulangerie. À Paris, ça paraîtrait peut-être un peu bizarre. Dans un village ou dans une toute petite ville, ça paraît beaucoup moins bizarre. Et ça peut être très efficace, parce que dans une petite ville, ou dans un village, ils ont aussi entendu parler de l'hypnose, ils ont aussi Internet, ils se sont renseignés, ils aimeraient bien pouvoir, pour certaines problématiques, avoir recours à l'hypnose. Sauf qu'ils ont personne à côté d'eux. Et c'est pour ça que moi, à une époque, je vendais énormément de CD, comme je vous en ai parlé, parce que c'était essentiellement provincial et régional. Maintenant, les ventes sont beaucoup moins importantes parce que l'aspect CD a été beaucoup moins mis en avant. Mais donc, tout ça pour dire que dans les petites villes, dans les villages, les gens sont aussi intéressés par l'hypnose, ils ont de la documentation, ils savent ce que c'est, ils seraient susceptibles de faire appel à vos services, mais encore faut-il qu'ils vous connaissent. Et que ce vecteur-là, la petite annonce, entre guillemets, dans la boulangerie, ça peut être un autre commerce, hein, la pharmacie, etc., etc. À Paris, c'est moins évident, parce que, voilà, encore une fois, à Paris, maintenant, il y a des centaines d'hypnothérapeutes, à Paris, en région parisienne, mais qu'en province, c'est différent. Donc ça, c'est pas négligé, voilà, vous voyez, c'est pas ridicule, c'est pas honteux, ni pour vous-même, ni pour le commerçant, ni pour le client potentiel. Donc voilà, ça coûte rien, il faut le faire, quoi. Et puis, bien évidemment, et ça vous le verrez au fur et à mesure de la progression et de votre carrière, bah, ça sera le bouche à oreille qui vous ramènera du monde. Et là, c'est plus de la promotion, mais c'est parce que vous aurez bien travaillé, les gens auront été satisfaits de vos services, et donc les anciens clients, bien souvent, vous renverront par bouche à oreille une partie, une fraction importante de votre clientèle. Moi, j'estime grosso modo à un quart, un tiers de ma clientèle, peut-être plus, ça varie en fonction des périodes. Parfois j'ai des semaines où il y a plus de la moitié de mes clients qui ont été renvoyés par d'anciens clients. Anciens clients, ça peut être l'année d'avant, 2 ans avant, 5 ans avant, voire 22 ans avant. J'ai un de mes plus vieux clients qui, aujourd'hui en 2015, me renvoie toujours du monde pour que j'avais fait arrêter de fumer, qui me renvoie toujours du monde. Je sais ainsi qu'il n'a jamais repris. Et il m'a renvoyé des dizaines et des dizaines de clients. Après, il y a des secteurs d'activité, comme ça, par exemple, à la Défense. J'ai une fois travaillé avec une personne qui travaillait dans le siège d'une banque. Et je ne vais pas dire que j'ai la moitié de la tour après qui est passée pour arrêter de fumer chez moi. Mais il y a eu énormément de clients. Voilà, ça a commencé à se propager. Ah, tiens, tu veux arrêter de fumer, comment t'as fait? Ou t'as arrêté de fumer, comment t'as fait? Bah, viens voir un tel, voilà, et ainsi de suite. Et ce qui était assez amusant, c'est que, bah, il y a eu d'abord un premier siège social d'une banque. Après, comme ils discutent, ils se connaissent entre eux, à la Défense, l'autre banque, bah, c'est pareil. Voilà. Le bouche à oreille, c'est important. Pour cela, bien évidemment, il faut avoir des résultats. Mais ça, j'en suis certain, des résultats, vous en aurez, parce que notre pratique, l'hypnothérapie, c'est encore une fois celle qui permet d'obtenir statistiquement. Et c'est une grande satisfaction à la fois pour les clients, mais pour nous, statistiquement, le plus de résultats. Donc je ne m'inquiète pas là-dessus. Donc travaillez bien, vous aurez des résultats à la satisfaction de tout le monde, de vous et de vos clients. Et en plus, au fur et à mesure de la progression de votre activité, ces gens-là vous renverront, par le système du bouche à oreille, une part non négligeable de votre clientèle. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'aspect promotionnel. Bon, encore une fois, hein, c'est du bon sens, hein. Après, pour les outils tels que le site internet, je vous renvoie à la rubrique téléchargement divers hein, sur le sommaire général de la formation où je vais lister quelques URL, quelques liens internet pratiques. Voilà, et encore une fois, bien évidemment, on peut en discuter par Skype, au téléphone, par email. Comme vous le savez, je ne suis pas avare de conseils. J'aurais peut-être même oublié certains points, vous aurez peut-être des idées qu'on développera ensemble. Voilà, eh bien, on se retrouve pour le prochain podcast. Je ne sais pas quel est le thème parce que je l'ai plus sous le. J'ai autre chose sur l'écran. Voilà, bah écoutez, à très bientôt pour le prochain podcast. Comme toujours, si vous avez des questions, vous savez à quelle porte toquer et à quelle sonnette sonner. À plus tard.